grande séquence consacrée aux pionniers du rock'n'roll des années 50 et 60. On se rapproche de Beach Party début juillet, n'oubliez pas. Dans les nocturnes, le Power Play, ce sera un extrait du nouvel album de Young Gun Silver Fox. Et puis il y aura évidemment les nocturnes soft rock avec une fois encore une séquence consacrée à Brian Jones, à Brian Wilson. Ne nous trompons pas de Brian Wilson, le leader des Beach Boys, qui nous a quittés mardi dernier, plutôt mercredi. Bonne nuit à tous. Passez une bonne nuit. Tomorrow is another day. Vous écoutez RTL, il est 2h. Les infos RTL. Toute l'info qui compte sur RTL avec vous, Mathilde Wessels.
Les États-Unis ont déclaré avoir aidé Israël à abattre les missiles iraniens ce vendredi soir. L'Iran n'aura pas tardé à riposter et à envoyer sur Israël des centaines de tirs balistiques touchant Tel Aviv et Jérusalem. Tout le pays était en alerte ce vendredi soir. La population s'est rendue dans les abris durant quelques heures. Tel Aviv a notamment été touchée par des missiles. De son côté, Benjamin Netanyahou a qualifié les attaques en Iran d'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire et en promet d'autres à venir. Le Premier ministre israélien a également appelé les Iraniens à se lever contre le régime, je cite, maléfique et oppressif iranien. Suite à ces événements et après s'être entretenu avec Benjamin Netanyahou dans l'après-midi, Emmanuel Macron a pris la parole depuis l'Élysée en début de soirée ce vendredi. Il a déclaré que l'on ne pouvait pas vivre dans un monde où l'Iran posséderait la bombe atomique.
Je le dis avec la plus grande clarté, le risque de cette marche vers l'arme nucléaire par l'Iran menace la région, l'Europe et plus généralement, la stabilité collective. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'Iran posséderait la bombe atomique, car c'est une menace existentielle et une menace pour notre sécurité à tous. Face au risque majeur de déstabilisation pour toute la région, la France appelle désormais toutes les parties à la plus grande retenue pour éviter l'escalade. La question du nucléaire iranien est une question grave, une question existentielle. C'est par la négociation qu'elle doit désormais être réglée. C'est pourquoi je regrette que l'Iran n'ait pas pris au sérieux les propositions avancées par les États-Unis et a refusé jusqu'alors toutes les concessions comme les gestes nécessaires.
Emmanuel Macron qui a également annoncé un renforcement du dispositif Sentinelle en France afin de faire face à toutes les potentielles menaces sur le territoire national. Un invité au cœur de l'actualité ce dimanche sur RTL, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, sera l'invité exceptionnel du grand jury RTL Le Figaro, Public Sénat M6, ce sera à midi ce dimanche. Public Sénat que vous pouvez désormais retrouver sur le canal numéro 8 de la TNT. Et puis ce drame survenu dans la Sarthe ce vendredi midi, un autocar avec à son bord des adolescents âgés de 15 à 17 ans et des adultes ukrainiens a eu un grave accident donc sur l'autoroute A81. 4 morts sont à déplorer, 11 blessés graves. Les 2 chauffeurs ukrainiens ont été placés en garde à vue pour homicide involontaire. Violée parce que juive, le tribunal pour enfants de Nanterre a condamné vendredi 2 mineurs pour le viol à caractère antisémite d'une fille de 12 ans. C'était en 2014, à 9 et 7 ans de prison ferme. Les faits s'était produit à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Un mot de sport avec le rugby et le top 14. Ce vendredi soir avait lieu la rencontre entre Bayonne et Clermont. Bayonne a remporté le match 17-3. Et samedi soir, ce sera Toulon face à Castres. Le coup d'envoi est prévu à 21h05.
RTL, 24 heures d'info.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
La rediffusion.
Une étudiante japonaise est portée disparue à Besançon. Cette jeune femme de 21 ans y étudiait le français. Les policiers ont la certitude qu'elle a été assassinée et ils disposent même de l'identité du présumé coupable qui est en fuite.
Bonjour, c'était une nuit de décembre 2016, 20 jours avant Noël. À Besançon, dans une chambre de la cité universitaire, Narumi Kurosaki, 21 ans, étudiante japonaise, était assassinée. Des cris entendus, mais pas de témoins. L'enquête de la police judiciaire, pointilleuse, méthodique, va livrer un incroyable scénario. L'auteur du crime serait venu d'Amérique du Sud, du Chili, pour venir tuer l'étudiante. 11 000 kilomètres pour laver un péché d'orgueil, celui d'avoir été éconduit par cette jeune femme qu'il croyait posséder. Nicolas Zepeda, fils de très bonne famille, a toujours nié l'assassinat, sauf que les faits sont têtus. À deux reprises, il a été condamné à 28 ans de prison. Deuxième procès cassé, il s'apprête donc à être rejugé. Affaire où la pièce principale du puzzle, le corps de la japonaise, manque toujours à l'appel. Où se trouve la disparue? Pourquoi Nicolas Zepeda apparaît comme le seul suspect possible? Question posée à notre invité de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers, Narumi Kurosaki, la disparue du campus de Besançon. C'est tout de suite sur RTL. Mercredi 7 décembre 2016, depuis 2 heures, Hiroki, jeune étudiant japonais, patiente désespérément sur le parvis de la gare de Besançon. Il a atterri le matin même à Roissy, il s'offre un tour d'Europe. Pour cette première étape, il était prévu que sa meilleure amie, Narumi Kurosaki, 21 ans, vienne l'accueillir. Elle est inscrite depuis 4 mois à la fac de Besançon, mais elle est injoignable. Hiroki va renoncer, dormir à l'hôtel et reprendre un train pour Paris. Le voyageur n'est pas le seul à se demander où est passé Narumi. Depuis 2 jours, son petit ami, l'étudiant Arthur Del Piccolo, n'a plus aucune nouvelle. La veille, mardi 6, au matin, il lui a dit par texto qu'il souhaitait la voir. Elle ne lui a répondu que quelques heures plus tard, ce qui ne lui ressemble pas. Elle lui a demandé de passer le lendemain et surtout de ne pas s'inquiéter. Elle a signé par un inhabituel « Bonne journée, mon chéri ». Dans les jours qui suivent, d'autres étudiants reçoivent eux aussi des messages bizarres. Narumi dit être partie à Lyon pour refaire son passeport qu'elle a égaré alors que le consulat du Japon est à Strasbourg. Les amis de Narumi sont dans le doute. Ils l'attendent le soir devant sa chambre à la cité U, la chambre numéro 106. Le 12 décembre, une prof demande par texto à l'étudiante de se manifester. Elle reçoit un smiley avec ce commentaire improbable. Merci de t'en soucier. Jeudi 15 décembre, la police est alertée. Une perquisition est conduite à 18h dans la chambre de Narumi Kurosaki. Tout est en ordre. Le frigo est plein. Le portefeuille avec 565 euros et 2 cartes bancaires n'a pas été touché. L'étudiante a laissé son manteau et ses chaussures. En dépit du froid hivernal, il manque seulement son portable, sa grosse valise orange, une couverture et un drap. Enquête ouverte pour enlèvement et séquestration. Arthur Del Piccolo est le premier entendu, premier soupçonné. Le petit ami dit avoir reçu un message inattendu de rupture le 5 décembre. Elle lui a ensuite demandé, sans explication, de la laisser. Ces dernières semaines, Narumi lui avait raconté qu'elle était harcelée par un ex, Nicolas, un Chilien. Elle l'avait connu au Japon, sur le campus. La police recueille des témoignages inquiétants. Au petit matin du lundi 5 décembre, plusieurs étudiants disent avoir entendu des cris stridents d'une femme venue du bâtiment Rousseau. À 3h21, la Britannique Rachel a adressé un texto à des amis. On dirait que quelqu'un est en train de se faire assassiner, mon cœur s'emballe. Aucun étudiant n'a osé sortir de sa chambre. Le calme est ensuite revenu. La police reconstitue par bribes l'itinéraire de Narumi Kurosaki. Dimanche 4 décembre au soir, son téléphone a borné dans le secteur d'Ornan, village très touristique de la vallée de la Loue, à 30 km de Besançon. Les enquêteurs inspectent les restaurants du coin. À la table de Gustave, on se souvient d'un jeune couple. La jeune femme, manteau foncé et bottes, était asiatique. Lui, manteau sombre, pantalon clair, ne parlait pas français. Il a payé avec une carte Visa de la Banque du Chili. Cette carte mène jusqu'au dénommé Nicolas Zepeda, 26 ans, l'ancien petit ami. La vidéosurveillance indique que le couple a quitté le restaurant à 21h57. Zepeda est depuis rentré à Santiago. Il aurait donc fait plus de 22 000 kilomètres aller et retour pour un dîner de retrouvailles ou de rupture. Nicolas Zepeda, qui dès à présent intéresse au plus haut point les policiers de Besançon, pas suspect, mais à minima témoin numéro 1. Il est hors de portée, il est retourné chez lui au Chili, 11 000 km à parcourir. Et il va falloir maintenant le retrouver, ou en tout cas qu'il accepte d'expliquer ce qui s'est passé ce soir-là. Les enquêteurs vont continuer à creuser la trajectoire de ce garçon et faire des découvertes accablantes, mais ça on va le voir dans la suite de l'heure du crime. Bonjour Willy Graff.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, vous êtes chef d'agence de l'Est républicain à Besançon. Journal qui a, vous avez beaucoup écrit dans ce journal sur cette affaire. Vous l'avez couverte de A à Z et vous êtes vraiment le spécialiste de ce dossier. Et vous êtes l'auteur de ce livre qui vient de sortir, l'affaire Narumi, un crime sans corps, qui est publié aux éditions des Presses de la Cité. Alors il y a absolument tout dans ce livre, toute l'enquête est détaillée, vous avez eu accès à des témoignages qui sont inédits, et effectivement si on veut comprendre le mécanisme de cette affaire criminelle, qui est un mécanisme qui est passionnant, parce qu'on va le voir, il se passe à des kilomètres, des milliers de kilomètres de distance, eh bien il faut lire ce livre, l'affaire Narumi, un crime sans corps. Alors, il y a cette disparition inquiétante. Question qui m'a toujours troublé dans cette affaire, Willy Graff, pourquoi on attend une dizaine de jours avant que la police soit alertée?
Je pense déjà que le fait qu'il s'agisse d'une étudiante étrangère, sans famille sur place, n'a pas aidé, mais surtout ce sont ces messages écrits, envoyés à son entourage, dès le lendemain de la nuit des cris, qui sont troublants, qui sont inhabituels, mais qui rassurent un petit peu.
Et qui bloquent un peu, effectivement, une option criminelle.
Qui entretiennent une confusion, en tout cas, et qui entretiennent une illusion que Narumi va bien, que tout va bien. Et il va falloir, effectivement, une dizaine de jours pour qu'on comprenne que là, il y a vraiment quelque chose qui cloche.
Narumi Kurosaki, étudiante japonaise, elle est arrivée quand à Besançon? Qui est-elle, cette jeune femme? Elle s'est très bien intégrée dans cette population et dans cette université.
Oui, Narumi, elle a 21 ans. Elle était arrivée 3 mois plus tôt, fin août, à Besançon pour apprendre le français dans un premier temps. Et c'est quelqu'un qui est présenté comme, déjà d'un point de vue caractère, très solaire, très sociable. C'est un petit peu inhabituel d'ailleurs par rapport à la personnalité japonaise. Elle est très occidentale finalement.
Elle a moins de retenue, c'est ça?
Moins de retenue, ouais. Et puis surtout très brillante. Hein. Elle a décroché une bourse au mérite. Université de Tsukuba à côté de Tokyo, c'est une université très réputée. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est promis en tout cas à un brillant avenir.
Ouais, ce campus, il est très tranquille à Besançon?
À Besançon, bien sûr, on est sur... Alors c'est une ville étudiante, hein, 120 000 habitants, 20 000 étudiants environ, mais ça reste un campus bon enfant.
Ouais, alors on avance un petit peu dans le temps, la PJ va être finalement saisie, police judiciaire de Besançon, ils vont faire un travail qui est remarquable, il faut le saluer, parce qu'effectivement ils vont être très pointilleux, très précis de la manière dont ils vont avancer. C'est d'ailleurs presque un modèle d'enquête qu'on pourrait donner effectivement dans les écoles de police. Alors il y a un premier élément qui est sans doute même le plus inquiétant, ce sont les cris dans la nuit. Ça vous le racontez très bien dans votre ouvrage, et les témoignages ils sont totalement effrayants, parce que là on a vraiment le sentiment, d'ailleurs il y a cette Britannique qui dit, il y a quelqu'un qui est en train de se faire assassiner.
Oui, c'est un SMS effectivement qu'elle envoie à une amie à chaud comme ça, il est 3h20 dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016, et c'est vrai que ce qui peut étonner, c'est qu'on a une douzaine d'étudiants qui sont réveillés, qui entendent les cris, mais il n'y en a aucun qui... Alors si, il y en a un qui passe quand même une tête dans le couloir, mais sinon tout le monde reste cloué au lit parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont à moitié endormis, parce qu'ils pensent quand même, ils n'imaginent pas qu'il puisse y avoir un crime à ce point-là. Et en tout cas, personne ne compose le 17, personne n'appelle la police. Et je sais que certains, aujourd'hui encore, sont un peu rongés par le remords avec le recul. Ils se disent, si j'avais appelé la police, est-ce que ça aurait changé quelque chose? On ne saura jamais.
Oui, parce que c'était facile, un coup de fil, il faut bien le dire. Là, on est très étonné hein, par cette attitude, qu'il y ait une ou deux personnes qui ne disent rien, ok, mais là, il y a une dizaine de personnes, vous le dites, d'étudiants, qui n'ont pas bougé. Et ça pose une question, parce que là, l'enquête aurait tout de suite changé de voilure, évidemment.
Évidemment, alors je ne sais pas si la police aurait pu ouvrir la centaine de portes cette nuit-là, mais en tout cas, il y aurait eu tout de suite une attention particulière
bien sûr
à cette disparition.
Alors, premier suspect, c'est le petit ami, Arthur Del Piccolo, c'est normal, c'est le petit ami, c'est lui le plus rapproché, finalement il va être mis rapidement hors de cause, on n'a rien à lui reprocher à ce garçon. Puis il y a un homme qui surgit dans le paysage, il s'appelle Nicolas Zepeda, c'est un Chilien, et là, tout de suite, et vous le dites bien Willy Graff, vous le racontez dans votre ouvrage, tout de suite les policiers, ils vont, il y a comme ça des fixations dans les enquêtes, ils vont sentir qu'il y a quelque chose autour de cet homme.
Oui, c'est vrai. Alors, statistiquement, les enquêteurs vont toujours vers le conjoint ou l'ex-conjoint. Il y a un mobile qui se dessine facilement avec Nicolas Zepeda, c'est une rupture qui n'est pas acceptée. Mais c'est vrai qu'au départ, on a peu d'éléments sur lui. Les policiers ont peu d'éléments sur lui. À Besançon, en France, personne ne le connaît. Narumi en a parlé un petit peu à son entourage. Mais,
et Arthur Del Piccolo,
à Arthur Del Piccolo, effectivement. On sait qu'il était quand même pressant avec elle. Mais par ailleurs, voilà, c'est un gamin sans histoire, sans antécédent judiciaire. Et les policiers quand même ont du mal à imaginer que ce gars a pu traverser le monde entier pour se venger.
C'est presque irréel d'ailleurs, hein, parce qu'il était au Chili, on va se demander, mais c'est pas possible.
C'est ça, c'était le premier réflexe des policiers. Au tout début, ils écartent cette hypothèse parce qu'ils se disent que c'est pas possible.
Ouais, c'est ça. Et effectivement, on sait, encore un petit mot, qu'il harcèle hein, Narumi. Ça, c'est...
Oui.
Tout le monde le dit, l'entourage de Narumi.
Tout le monde le dit, surtout dès lors qu'elle est partie en France voler un peu de ses propres ailes. Là, il a vraiment... Alors, harcelé, oui, en tout cas, tentative d'emprise. Contrôler ses faits et gestes, ses pensées. Et ça, Narumi, d'ailleurs, ne l'a pas accepté. Ça va aboutir à une rupture.
Nicolas Zepeda et ses étranges arrêts dans une forêt. Narumi Kurosaki, la disparue de Besançon. Je n'ai rien fait, je ne suis ni jaloux ni possessif. Je crains qu'elle soit entre les mains de quelqu'un et qu'elle soit en danger. L'enquête de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
They're saying as our sun begins to fade, and we made our love on wasteland and through the barricades. Father made my history and fought for what he thought would set us somehow. They're singing in the music of the parade. We made our love on wasteland and through the barricades. Born on different sides of life. We'll be right back.
barricades.
Par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime consacrée aujourd'hui à la disparition et à la mort de Narumi Kurosaki. Cette étudiante japonaise, 21 ans, s'est volatilisée en décembre 2016 à la fac de Besançon, où elle était inscrite depuis la rentrée. Un ex-petit ami, le chilien Nicolas Zepeda, va être activement recherché. Les policiers de Besançon enquêtent sur le séjour français du Chilien Nicolas Zepeda à la période où Narumi Kurosaki a disparu. Une voiture flashée par un radar au soir du dimanche 4 décembre entre Ornans, où le jeune couple a dîné, et Besançon fait avancer les investigations. On ne distingue pas les occupants, mais cette Renault Mégane a été louée à Dijon le 30 novembre. Elle avait été réservée 15 jours plus tôt depuis le Chili par un certain Nicolas Umberto. La voiture relouée depuis est inspectée. Quand elle a été rendue, elle était couverte de boue comme un 4x4 qui aurait traversé un bois. Le tracker anti-vol du véhicule est analysé. Après avoir été louée, la voiture a roulé jusqu'à Besançon, a stationné sur le campus, y a passé la nuit. Nicolas Zepeda est resté en surveillance dans le secteur. Le 1er décembre, le conducteur est revenu à Dijon. Sa carte bancaire indique qu'il a acheté dans un supermarché 5 litres de liquide inflammable et des boîtes d'allumettes. La Mégane va ensuite circuler près de Dole sur des petites routes qui traversent la forêt de Chaux. Il s'y arrête deux fois. Vendredi 23 décembre 2016, un mandat d'arrêt international est lancé contre Nicolas Zepeda. Une semaine plus tard, il se présente au bureau Interpol de Santiago. Sur deux pages, il indique avoir voyagé en Europe pour faire le tour de plusieurs universités. Il a alors reçu un mail de son ex-petite amie Narumi Kurosaki. Il a décidé d'aller lui rendre visite. Un échange amical, précise-t-il. Ils ont dîné au restaurant, puis ils ont couché ensemble à la résidence universitaire. Les cris entendus seraient, selon lui, des gémissements d'amour. Il raconte avoir quitté la japonaise à l'aube. « J'ai marché vers le centre-ville, j'ai attendu que Narumi me contacte, mais elle ne l'a jamais fait », témoigne-t-il. Lundi 19 novembre 2018, deux ans après la disparition de Narumi Kurosaki, le procureur de Besançon annonce que malheureusement la jeune femme est décédée. Les campagnes de fouilles et de ratissage dans l'immense forêt de Chaux, 25 000 hectares, n'ont rien donné. Les échanges de mails entre Nicolas Zepeda et la disparue montrent que celle-ci ne supportait plus son harcèlement permanent. Elle le menace d'aller voir la police. Elle finit par l'insulter. La justice chilienne demeure immobile. Les parents de Narumi font alors deux fois le voyage jusqu'à Santiago. Ils se postent sous les fenêtres de l'appartement de Nicolas Zepeda. Ils n'excluent pas que leur fille y soit séquestrée. La mère suit l'ex-petite amie. Il marchait d'un pas vif. Nous nous sommes retrouvés au milieu d'un pont. Il avait l'air surpris. Il m'a dévisagé. Il a baissé les yeux et il a continué son chemin, indique Taeko Kurosaki. 15 avril 2019, le procureur de Besançon et les policiers sont à Santiago pour présenter le dossier d'extradition. Un an plus tard, Zepeda est réinterrogé. Il déclare être ni jaloux ni possessif. Selon lui, Narumi était heureuse de le retrouver. Elle a dû partir de manière impromptue, dit le suspect. Je crains qu'elle soit entre les mains de quelqu'un, qu'elle soit en danger, déclare-t-il. Voilà, Nicolas Zepeda va être bientôt extradé, il a toujours nié, mais là il va falloir qu'il s'explique devant la justice française. Que faisait-il à Besançon au début du mois de décembre 2016? Que faisait-il vraiment à Besançon? C'est la question qui lui sera posée. Et évidemment, on va rendre compte de ses réponses dans la suite de l'émission. Alors, Willy Graff, vous êtes avec nous dans cette heure du crime. Vous nous éclairez sur cette sombre affaire. Vous êtes journaliste, chef d'agence de l'Est républicain à Besançon et auteur du livre « L'affaire Narumi, un crime sans corps » publié aux éditions des presses de la Cité. Alors, les policiers, ils travaillent assez vite là-dessus, sur Zepeda. Ils savent qu'ils ont un suspect, même s'il est très très loin de là. Il est à 11 000 km, il est rentré à Santiago. Quels sont les éléments qui peuvent l'accuser? Déjà, il y a la voiture, le tracker de la voiture, et c'est important cette analyse.
Oui, alors, en préambule, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on n'a pas un élément absolu, mais on a vraiment...
On n'a pas la preuve.
On n'a pas la preuve, mais on a beaucoup, beaucoup d'éléments qui convergent vers Nicolas Zepeda, et effectivement, la voiture en est un, parmi d'autres. On a ces déplacements qui défient un peu toute logique, sauf à penser que voilà, Nicolas Zepeda épie Narumi, un peu comme des cercles concentriques autour d'elle pendant 3-4 jours, avant même de l'aborder. Et ça, le tracker de la voiture... Le démonte de manière objective.
Ouais, il est resté sur ce campus, donc on imagine que il n'était pas là pour rien. Il surveillait Narumi Kurosaki, qui à ce moment-là ne l'a pas encore rencontré. Encore un petit mot, Willy Graff. Il y a les achats aussi qu'il fait. Ces achats, ils sont très inquiétants. Ouais. De liquide inflammable, des allumettes.
Inquiétant, troublant, oui. Là, on est 3-4 jours avant la nuit des cris et Nicolas Zepeda prend la peine d'aller à Carrefour pour acheter 5 litres de produits inflammables, un pulvérisateur de détergent et puis 3 boîtes d'allumettes. Pas forcément ce qu'on pense à acheter quand on fait du tourisme ou autre. Surtout, ces justifications seront quand même assez douteuses. Les boîtes d'allumettes, c'était pour la décoration dans sa cuisine. Le contenant l'intéressait du produit inflammable parce qu'il l'aurait vidé pour le remplir d'essence en cas de panne de voiture. Voilà, c'est des choses qui ne convainquent pas les policiers.
On fait plus facile. Hein. Voilà, on vend des jerrycans vides en plastique dans tous les supermarchés.
Tout à fait. Donc voilà, il y a une autre interprétation des enquêteurs qui est que c'est peut-être des objets qui peuvent servir à nettoyer une scène de crime ou à se débarrasser d'un corps.
Il est au Chili. Interpol a été saisi. Il y a une première demande d'extradition qui est formulée par la France. Rien ne bouge. Les autorités ne bougent pas. C'est un fils de notable. Il faut bien le rappeler. La famille est puissante. Donc, effectivement, ils ont peut-être des appuis. C'est ce qu'on peut se dire. Et vous racontez très bien dans votre livre, Willy Graff, que la famille de Narumi Kurosaki, la maman, le papa, ils sont divorcés, mais enfin, la maman et le papa... vont se rendre sur place. C'est très émouvant ce que vous racontez, parce qu'effectivement la maman va parler de ses recherches là-bas. Elle croit que Narumi est là-bas.
Et contrairement à beaucoup, eux, ils n'admettent pas la mort de leur fille. Ça, c'est un premier point. Pendant 2 à 3 ans, contrairement à ce que leur dit la juge d'instruction, notamment, qui les a reçus à Besançon, une première fois, ils n'arrivent pas à s'y résoudre. Donc oui, ils partent au Chili, effectivement. Il faut les imaginer, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ces gens-là. Alors, ils piochent dans leurs économies, avec leurs baluchons, si j'ose dire, et ils partent à l'aventure. En plus, avec un maman et une papa qui sont séparés, qui sont en froid, mais qui là scellent une sorte de pacte.
Bien sûr.
Pour se retrouver, puis pour chercher leur fille. Et puis voilà, ils passent des jours, des nuits, notamment au pied de l'immeuble à Santiago, où vit Nicolas, à chercher une silhouette derrière un rideau, à l'appeler même par son prénom, Narumi. Voilà, ils recherchent un fantôme, en fait. Et c'est vrai que c'est... On oscille entre la pitié et la compassion, quoi, face à ce genre de situation.
Ils recherchent un fantôme, oui, c'est tout à fait ça. On recherche aussi un fantôme en France, puisqu'on ne sait pas où est passé Narumi, en tout cas où repose son corps. Vous allez aller, Willy Graff, là-bas, au Chili. Vous accompagnez la délégation française, magistrats, policiers. Comment ça se passe?
Oui, effectivement, on est en avril 2019.
Pour l'Est républicain, je le précise.
L'Est républicain, et là, on est à un premier tournant, en tout cas dans le processus d'extradition, c'est que le Chili accepte d'interroger Nicolas Zepeda pour la première fois.
Ça, c'est déjà une avancée.
2 ans après les faits. Hein. Et puis, cette délégation, donc procureur, juge d'instruction, enquêteur de PJ de Besançon, qui viennent pour assister un peu les magistrats chiliens. Et nous, donc moi, je suis cette semaine-là au Chili, et c'est vrai qu'on sent que quelque chose bouge, notamment en termes de médiatisation au Chili. C'est à ce moment-là seulement que les Chiliens s'intéressent à ce cas, et c'est quelque chose qui était recherché par la justice française, parce qu'on se dit que s'il y a une médiatisation, on ne pourra pas mettre ce dossier sous le tapis, et que les institutions chiliennes devront quand même prendre en considération la demande d'extradition qui arrivera dans les mois qui suivront.
Je le disais, la famille Zepeda, c'est pas n'importe qui, hein, au Chili. Le papa, c'est un industriel, enfin un entrepreneur très connu.
Ouais, on lui prête effectivement alors une puissance financière importante et puis des appuis, notamment au Chili, hein, où il y a quand même voilà toute une strate de personnes qui assez peu de personnes qui finalement ont le pouvoir, hein, détiennent le pouvoir. Et c'est vrai que c'est une famille qui n'est pas anodine.
Et sur place, vous sentez que les policiers ou les juges ont du mal à faire prospérer leur thèse, ou bien la justice chilienne est enfin à l'écoute?
Alors, pour en avoir discuté un peu avec eux, le premier sentiment, c'est que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, parce que Nicolas Zepeda déjà garde le silence.
Et puis, il dit rien, là.
Il dit rien sur ce premier interrogatoire. Et puis, l'une des possibilités qui était privilégiée à l'époque, c'était de dénoncer les faits au Chili. C'est-à-dire qu'on laissait le Chili juger Nicolas Zepeda. Et les échanges à l'occasion de cette semaine, en avril 2019, montrent que le Chili ne veut pas juger cette affaire et veut laisser... cette affaire à la France.
Donc c'est la France qui va récupérer effectivement le bébé de cette affaire, mais enfin c'est ce que souhaite aussi la justice française. 4 ans après la disparition, l'ex-petit ami va enfin être extradé. Narumi Kurosaki, il a disparu du campus de Besançon. Il se dit persécuté, mais c'est un homme très manipulateur. L'enquête de l'heure du crime face aux enquêteurs et aux juges de Besançon. Comment Nicolas Zepeda va-t-il pouvoir continuer à nier? À suivre dans un court instant sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
C'est évidemment un grand soulagement pour toute la famille de Narumi Kurosaki de savoir qu'enfin Nicolas Zepeda va être inquiété, va être entendu. Ils attendent de la vérité, qu'on leur dise ce qui est arrivé à leur fille.
Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur la disparition de Narumi Kurosaki à partir du 5 décembre 2016. Cette étudiante japonaise de la fac de Besançon n'a plus donné aucun signe de vie. Son ex-petit ami, un Chilien, est soupçonné 4 ans après les faits. La justice française va enfin pouvoir l'entendre.
Jeudi 23 juillet 2020, Nicolas Zepeda, 29 ans, est extradé vers la France. Sombre coïncidence, ce même jour, Narumi Kurosaki aurait dû fêter ses 25 ans. Les proches de Narumi le supplient de dire où il a caché le corps, car la place de leur fille est d'être près de ses parents, indique l'avocate de la famille, Sylvie Gallet. Espoir vite balayé par l'intéressé. Je n'ai jamais commis de violence, ni exercé de pression sur quiconque, avance Nicolas Zepeda. Il maintient qu'à son départ, à Besançon, Narumi était vivante. Il raconte que les retrouvailles s'étaient bien passées. Il s'était rendu compte qu'ils étaient toujours amoureux l'un de l'autre. Le procureur de Besançon évoque un calculateur redoutable. Il parle de déclarations incohérentes, peu convaincantes. En 2022, un rapport signé du directeur de la prison de Besançon présente le Chilien comme quelqu'un qui se dit persécuté mais qui est très manipulateur, poli avec les gradés, désagréable avec les surveillants. Les psychiatres voient eux aussi en Nicolas Zepeda un manipulateur. Une experte psychologue qu'il a interrogé pendant 7 heures dépeint un individu qui est en permanence dans la recherche du contrôle de l'autre. Il ne montrerait pas beaucoup d'empathie pour la victime ou la famille de celle-ci. Quand il se sent dominé, il est alors dans la colère, va indiquer l'experte. Et voilà donc pour ces premières déclarations de Nicolas Zepeda. Willy Graff, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, dans le studio de l'heure du crime, auteur du livre « L'affaire Narumi, un crime sans corps » qui est publié aux éditions des Presses de la Cité. Vous êtes journaliste pour l'Est Républicain. Vous connaissez très très bien ce dossier. Alors il y a cette extradition, elle a été obtenue difficilement. Ça a été long et jusqu'au bout, on est allé au bout du suspense parce que c'était pas du tout joué jusqu'au dernier moment. On s'est dit « ça va pas marcher ».
Oui, clairement. Au début, personne n'y croyait à cette extradition. Ça a été un long processus judiciaire, mais aussi un processus diplomatique, médiatique, et qui a duré 3 ans. Et moi, j'y vois deux virages, deux tournants. C'est le premier, c'est cette venue en avril 2019 d'une délégation française, byzantine, pour plaider un peu le dossier et la solidité de l'enquête. Et puis le deuxième tournant, qui nous éloigne un peu de la justice, c'est qu'au Chili, fin 2019, il se passe quelque chose d'un point de vue social assez énorme. Le pays s'embrase. On a eu, nous, les Gilets jaunes. Eux, ils ont eu la version encore plus musclée. Je crois que c'est 26 morts, des émeutes.
D'accord.
L'armée dans la rue, parce qu'en fait, les gens en ont marre des inégalités de richesse. Et surtout marre que le pouvoir soit confisqué par des nantis. Et à ça, vous pouvez ajouter aussi un gros essor du féminisme, MeToo, en gros, hein, avec aussi une grosse prise de conscience collective au Chili. Et là, Nicolas Zepeda, il coche les deux mauvaises cases. Il est assimilé à ces nantis. Et il est soupçonné d'avoir tué une femme. Donc là, on sent que ça bascule. Et effectivement, le Chili finira par extrader quelques mois plus tard Nicolas Zepeda.
Alors ça, c'est passionnant ce que vous racontez, parce que c'est l'histoire qui fait finalement l'histoire judiciaire. Effectivement, il y a eu ces événements. Et peut-être sans ces événements, aujourd'hui, Nicolas Zepeda, il serait peut-être encore tranquille au Chili. C'est une possibilité. Alors, il est devant la justice française. Là, il est un peu forcé de s'expliquer. Maintenant, il est au pied du mur. On va lui poser des questions. On va le bombarder de questions. Mais il n'y a pas de faiblesse chez lui. Hein, c'est-à-dire qu'il a une espèce de cadre dans lequel il évolue et il n'en sort jamais.
C'est vraiment un garçon assez étonnant. Tout lui glisse dessus comme de l'eau. Il y a un de ses avocats qui dira que c'est un roc, et c'est vraiment ça. Les questions posées alors avant les procès, hein, en interrogatoire, sont très pointues et souvent piégeuses. Et lui, à chaque fois, a réponse à tout. En tout cas, il essaie d'avoir réponse à tout. Parfois, ses réponses sont incohérentes, mais... Ça le fait pas vaciller pour autant, et encore moins le faire avouer de quoi que ce soit.
Sa famille est déjà très présente, hein, lors de ces interrogatoires, etc. Je sais que le père, on va le voir, hein, il va y avoir des procès, mais le père va être toujours là, derrière lui.
C'est son premier avocat, c'est son premier soutien, et effectivement, son papa est très présent.
Alors, il y a autre chose, je l'ai dit, ce sont les experts. C'est toujours important d'écouter les experts, les psychiatres, les psychologues, les enquêteurs de personnalité. Nicolas Zepeda les a tous rencontrés. Et il y a un terme qui revient sans arrêt dans la bouche de tous ces spécialistes, c'est manipulateur. Ça, je l'ai noté au moins 10 fois, manipulateur. Ça revient sans arrêt, même dans la bouche du directeur de la prison.
Oui, effectivement, c'est vraiment le trait qui ressort des expertises. Un psychologue, un psychiatre qui ont examiné Nicolas Zepeda en prison. Et voilà, ils insistent sur cette tendance. On est aussi sur quelque chose sur quelqu'un, pardon, qui vraiment manque d'empathie, une froideur affective qui sort de l'ordinaire. Et moi, mon sentiment, c'est aussi qu'il a vraiment besoin, alors on l'a tous, mais il a vraiment, il se nourrit du regard de l'autre, il a besoin d'être aimé, d'être respecté, d'être même admiré. Et ça, c'est un moteur puissant chez lui aussi. Et il peut pas décevoir, du coup. Et moi, je me rappelle d'une phrase d'une psychologue qui disait que en fait, Nicolas Zepeda, c'était un peu un extraterrestre, qui venait d'une autre planète. C'est quand même assez singulier.
Nicolas Zepeda va être jugé, début d'un long parcours devant les tribunaux. Narumi Kurosaki, la disparue du campus de Besançon. Je suis détruite psychiquement, cet homme est un génie maléfique et puéril. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime. Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la disparition et la mort certaine de Narumi Kurosaki, étudiante japonaise volatilisée sur le campus de la fac de Besançon en décembre 2016. Un seul suspect, l'ex-petit ami chilien. 5 ans et demi plus tard, le premier procès. Mardi 29 mars 2022, Nicolas Zepeda, 31 ans, chemise bleu clair et cravate, est devant la cour d'assises du Doubs à Besançon. Son père parle d'un fils très affectueux, élevé dans le respect de l'autre et les valeurs chrétiennes. Pour ses sœurs jumelles, Nicolas est un modèle. Une amie japonaise de Narumi dresse un tout autre portrait de l'accusé. Narumi avait peur de Nicolas, affirme-t-elle. Elle se disait harcelée, il voulait la retrouver, elle était perdue. Les faux messages de Narumi adressés à ses proches après la disparition sont évoqués. L'accusé nie en être l'auteur. À propos d'un message vidéo de menace adressé à Narumi, Zepeda répond de façon détournée et confuse. « Je voulais protéger notre relation, qu'elle en garde un bon souvenir. » Il n'a pas tué la japonaise. S'il a pris des petites routes dans la forêt de Chaux, c'était pour voir les lumières de Noël dans les villages du coin. Taeko, maman de la disparue, serre contre elle le portrait de sa fille. Elle tient un mouchoir sur sa bouche. Elle se dit détruite psychiquement. L'ex-petite amie est selon elle un génie maléfique et puéril. Nicolas Zepeda est condamné à 28 ans de prison. Lundi 4 décembre 2023, un an et demi après le premier procès, Nicolas Zepeda comparaît en appel devant les assises de la Haute-Saône à Vesoul. Nicolas Zepeda admet pour la première fois qu'il est venu à Besançon essentiellement pour rencontrer Narumi. Il ne l'avait jamais dit auparavant car il avait peur qu'on construise une histoire autour de lui. Son père ne cesse de répéter qu'il n'existe aucune preuve matérielle ou scientifique contre son fils Nicolas. Zepeda nie. Il pleure. Quand je l'ai laissée dans la chambre, elle allait bien, certifie-t-il, à nouveau condamné à 28 ans de prison. Deux procès différents, mais le verdict est identique. 28 ans de prison pour Nicolas Zepeda. Willy Graff, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes aujourd'hui notre invité, journaliste à l'Est républicain, auteur du livre « L'affaire Narumi, un crime sans corps » publié aux éditions des Presses de la Cité. Affaire extraordinaire parce que cet homme, Zepeda, il est accusé d'avoir fait au total 22 000 kilomètres pour venir tuer sa petite amie jusque sur le campus de Besançon. C'est donc un crime sur plusieurs continents que l'on vous raconte aujourd'hui. Willy Graff, vous étiez évidemment à ces procès, vous suivez l'affaire depuis le début, vous n'avez pas raté une seconde de ces audiences. Il y a deux procès, tous les deux 28 ans de prison. Il a évolué un peu entre ces deux procès, ou est-ce que c'est le même personnage, le même homme que vous retrouvez?
Alors, est-ce qu'il a évolué? Oui et non. Le même homme, oui, ça c'est certain. Sauf qu'entre les deux, il a appris le français, pour le coup. C'est un détail qui a son importance, parce que pour... mieux convaincre les jurés.
Ça va plus vite en plus.
Ça va plus vite, il n'y a plus de filtre. Mais sorti de ça, il y a surtout... Alors, il admet quand même quelques mensonges au deuxième procès. Il admet avoir menti, effectivement, par peur qu'on l'accuse à tort. Et, mais moi, j'ai le sentiment que ce sont quand même des mensonges plus par calcul et sur des aspects plutôt secondaires. Sur l'essentiel, il ne bouge pas. Il continue de dire qu'il était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et là-dessus, il n'y a pas d'évolution.
Qu'est-ce qu'il dit sur ses voyages dans la forêt de Chaux, là? Parce que ça, c'est très intéressant. Les policiers, ils en sont sûrs. Ils savent que c'est ici que, sans doute, Narumi a été inhumée, ou en tout cas les restes. Peut-être elle a été brûlée, le corps a été brûlé, on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'il raconte là-dessus?
Là, pour le coup, on est vraiment sur une partie faible de sa version, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il explique, alors en amont, 3-4 jours avant la disparition de Narumi, que c'était effectivement pour faire du tourisme, voir les lumières de Noël, et puis le matin du 6 décembre, où les enquêteurs l'accusent de s'être débarrassé du corps, peut-être dans une rivière d'ailleurs aussi, c'est une autre possibilité, là, il dit qu'il voulait juste faire un somme, visiter une église. Alors, au début, il dit qu'il a dormi dans les églises, sauf que les vérifications sont faites. Toutes les églises, à cette heure-là, 5-6 heures du matin, sont fermées. Donc après, il dit que non, il y avait une erreur de traduction. Il a dormi devant l'église, dans la voiture. Enfin bref, il s'en mêle un peu les pinceaux.
Oui, c'est compliqué avec lui. Un petit mot quand même, parce que cet homme, on l'a vu en photo, vaguement, comme ça. Il n'y a pas énormément de photos de ce garçon. Qu'est-ce qui vous inspire? À quoi est-ce qu'il ressemble?
Moi, je trouve que c'est un mec plutôt normal, quoi. La trentaine, ouais. Cheveux bruns... J'allais dire une bonne tête. Ouais. Il est souriant, il est poli, bien élevé, il s'exprime bien. Un peu genre idéal, quoi, quand on gratte pas à la surface. Et on devine aussi qu'il est assez intelligent. En tout cas, il a pas le profil d'un criminel ou d'un assassin tel qu'on l'imagine.
Il n'est pas excité, etc. Il n'est pas en tension permanente ou bien...
Alors, il le cache bien, mais de temps en temps... Et c'est arrivé plusieurs fois pendant les deux procès, il craque émotionnellement, il pleure. Mais j'ai plus l'impression qu'il pleure sur lui-même et sa situation que pleurer en empathie pour...
Mais justement, alors c'est très important ce que vous dites. Est-ce qu'il a des mots d'empathie pour Narumi Kurosaki? Est-ce qu'il dit qu'il est malheureux?
Il en a eu quelques-uns. Il se dit compatissant vis-à-vis de sa famille, notamment. Voilà, après, chacun y verra une dose de sincérité ou pas, mais en tout cas, il s'applique à le dire.
Ouais. Il y a autre chose aussi dans ces procès, c'est la présence de la maman de Narumi, parce que là, on va évidemment remarquer son témoignage, parce que elle est complètement dévastée, cette mère. Elle parle évidemment pas français. Elle est là, à la barre, et elle essaie d'expliquer ce qu'était Narumi, finalement.
Ouais, franchement, notamment au premier procès, sa déposition, ça a été le moment le plus fort du procès. Émotionnellement, là, tout le monde avait été emporté par cette maman qui est brisée, hein, qui est broyée de l'intérieur, et qui avait su, après, ça faisait quasiment 5 ans qu'elle gardait le silence chez elle, recluse, et là, elle s'était vraiment ouverte aux jurés, et ça avait tout emporté, tout le monde avait un petit peu les larmes aux yeux.
Procès cassé, un troisième se tiendra donc bientôt. Narumi Kurosaki, la disparue du campus de Besançon. La maman et les sœurs sont très vulnérables, sont là pour honorer la mémoire de celle qui n'est plus là. L'enquête de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You're Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong, down at the Tennessee, you're always on my mind. And mama, every Saturday I can hear your southern draw a thousand miles away saying, God, what have you done? You're a pink pony girl and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong.
Sur RTL
et l'heure du crime.
Dans l'heure du crime, la disparition et la mort de Narumi Kurosaki en 2016. Cette étudiante japonaise s'évanouissait sur le campus de la fac de Besançon. Un ex-petit ami serait venu du Chili pour l'assassiner. Deux fois condamné à 28 ans de prison. Dernier procès cassé. Il y en aura donc un troisième. Mercredi 26 février 2025, 14 mois après la deuxième condamnation de Nicolas Zepeda, la Cour de cassation invalide le verdict du procès d'appel, un vice de forme. Un troisième procès se tiendra donc dans les mois qui viennent. Nous espérons que la procédure régulière sera respectée et que nous parviendrons à la vérité, indique la famille Zepeda. La famille de Narumi Kurosaki, elle, voit ce dernier bouleversement judiciaire comme une épreuve supplémentaire. La mère de la disparue s'était évanouie lors du procès en appel. À propos de la maman et des deux sœurs de Narumi, leur avocate, Sylvie Gallet, avait alors déclaré « Elles sont extrêmement vulnérables, elles n'attendent plus rien de ce procès, elles sont là pour honorer la mémoire de Narumi ».
Il a bien préparé son acte, puisque de toute manière, il a fait des recherches, de longues recherches avant de venir. Et quand il est arrivé en France, il avait tout mis en œuvre pour que ce soit bien dissimulé. Donc, ouais, franchement, là, on a affaire à quelqu'un de machiavélique et de très intelligent et qui nous a donné du fait hors temps, et notamment dans la recherche du corps de Narumi, c'est sûr.
La voix de Régis Millet, directeur de la police judiciaire de Besançon, qui a mené toute cette enquête, c'était sur France 3 en juillet 2018. Et encore une fois, on salue ce travail de police, parce qu'il a été parfait du début jusqu'à la fin. Willy Graff, vous êtes avec nous, et vous aussi, vous êtes parfait du début jusqu'à la fin dans cette émission. On a un plaisir à vous recevoir. Vous êtes journaliste pour l'Est Républicain, vous êtes l'auteur du livre « L'affaire Narumi, un crime sans corps » publié aux éditions des Presses de la Cité. Il y a ce troisième procès qui s'annonce. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et puis, déjà, est-ce qu'on a les dates de ce procès?
Elles ne sont pas encore non consolidées, mais on est sur une tendance printemps 2026. Ça fera quasiment 10 ans hein, que Narumi aura disparu. Et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Vous êtes bien placé ici pour le savoir. Un procès ne se ressemble jamais de copier-coller, même quand c'est la même affaire. Pour autant, on est face à une même enquête, les mêmes charges. Une fois de plus, ce sera Nicolas Zepeda qui aura les clés. En fonction de son positionnement, de sa stratégie de défense, il fera évoluer ou pas les choses.
Alors, on ne va pas essayer d'entretenir un suspense inutile, j'ai envie de dire, parce que lorsqu'on voit l'attitude de Zepeda lors de l'enquête, lors des deux procès, deux fois condamné, il n'a jamais bronché. Il peut raconter n'importe quoi, il peut essayer de se cacher, etc., de se faufiler entre les questions, mais il n'a jamais bougé. On n'imagine pas d'un seul coup une révélation qui dise « où est le corps ?» ou « bien c'est moi qui l'ai tué », etc.
Non, je suis d'accord avec vous. Bon, en plus, il est à nouveau présumé innocent. Il y a cette décision de la Cour de cassation qui
très important, bien sûr,
qui renforce, je pense aussi, la conviction et la volonté de la famille Zepeda, en tout cas de Nicolas Zepeda, de plaider son innocence. Et je vois pas pourquoi il modifierait cette ligne de défense.
Il y a quelque chose de très frappant, c'est que lorsque la Cour de cassation s'est prononcée, vice de forme, on le dit, hein, c'est pas sur le fond du dossier, c'est sur la forme. Lorsque la Cour de cassation s'est prononcé, la famille Zepeda a tout de suite réagi. C'est une grande victoire pour eux, parce qu'ils avaient le sentiment qu'on allait tout reconstruire et tout refaire. La famille Zepeda s'est félicitée quasiment de cette déclaration.
Ils s'appuient vraiment sur cette décision. Pour l'anecdote, quelques minutes après la décision de la Cour de cassation, moi j'ai reçu un message sur WhatsApp d'Humberto Zepeda, le père, communiqué de presse de 12 pages qu'il avait préparé et qui, voilà, il me demandait de le publier intégralement d'ailleurs, ce que j'ai pas pu faire. J'ai évidemment fait un article pour relayer sa position, mais on sent qu'ils sont, oui, regonflés à bloc.
Willy Graff, est-ce que le corps de Narumi Kurosaki est toujours recherché aujourd'hui?
Alors non, plus du tout. Depuis 6 ans, je crois, maintenant, il est plus recherché. Maintenant, on s'en remet au hasard, au destin. Il n'est pas impossible qu'un jour, un fragment osseux, parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein,
oui, on imagine mal retrouver un squelette entier.
Dans la forêt, sur les berges d'une rivière. Et avec l'ADN, peut-être qu'on pourrait raccrocher ça à Narumi. Mais il y a très peu de chances que le corps soit retrouvé un jour.
Cette forêt de chaux, on ne l'a pas décrite, mais enfin, elle est immense. Hein. J'ai vu des photos.
Oui, 20 000 hectares, effectivement. Et puis, dans cette zone, il y a 50 km² hein, qui ont été déterminés par les enquêteurs, où le corps potentiellement peut être. Et dans cette zone, il y a aussi des rivières, des étangs.
Des torrents.
Ouais, de la broussaille, des champs. Il y a aussi de la campagne. Et beaucoup de configurations différentes pour cacher un corps et autant chercher une aiguille dans une botte de foin.
Quoi. Ouais, et ça, c'est effectivement aujourd'hui devenu le cimetière de Narumi Kurosaki, hein, puisque c'est là qu'elle serait inhumée, enterrée. En tout cas, c'est le trajet du suspect hein, qui le montre, le trajet de Zepeda qui montre qu'elle pourrait être là. Mais on n'a toujours pas retrouvé la moindre trace. Nicolas Zepeda, évidemment, il est toujours présumé innocent. On sait qu'il est accroché à ses dénégations. Il y a ce troisième procès. La famille, justement, de Narumi Kurosaki, à deux reprises, ils sont venus du Japon, cette famille. Ils ont fait un effort terrifiant au-dessus de leurs forces, quasiment. La maman s'est évanouie au deuxième procès. Là, on a l'impression que c'est le procès de trop pour cette famille.
En tout cas, émotionnellement, ça va être une épreuve dont il se serait bien passé, ça c'est évident. Mais leur avocate a confirmé qu'elle serait bien là.
La maman,
les sœurs viendront à nouveau confronter Nicolas Zepeda pour la mémoire de leur fille. Et je pense qu'elles n'espèrent plus rien. En tout cas, elles se refusent à espérer, parce que je pense que ce serait trop douloureux d'espérer. Mais elles seront là et advienne
que pourra, mais leur présence est très importante, hein, parce qu'elles ont fait basculer aussi le procès.
Oui, oui, ça,
la famille le sait, la famille de Narumi, je suppose. Hein.
Oui, oui, elles ont un rôle à jouer sur le registre de l'émotion pour rappeler aussi à la cour d'assises que Narumi n'est pas qu'un nom, c'était une vraie personne incarnée qui mérite qu'on se batte pour la manifestation de la vérité.
Et qui mérite qu'on la recherche encore, même si c'est difficile. Merci beaucoup, Willy Graff, d'avoir été aujourd'hui.